France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Notre Colette, la nôtre, celle de nos lectures d'adolescents puis d'adultes, lecteurs, lectrices, en commençant souvent par la série des Claudines, et puis tous les autres romans, et la vie de Colette, et sa voix, que nous entendons en relisant ses écrits. Notre Colette est celle de Julia Kristeva, puisque c'est elle qui proposait, en août 2003, une série de 5 émissions, dont vous pouvez réentendre cette semaine, dans les nuits de France Culture, tous les épisodes, la preuve, en voici le 4e.
De l'écriture au féminin. Notre Colette, par Julia Kristeva. Aujourd'hui, l'enfant et les sortilèges.
Il nous reste aujourd'hui à entendre et peut-être à comprendre une étape essentielle du voyage qui conduit Colette des Claudines à Sidot. Ce voyage dont on a parlé la dernière fois, et qui se trouve être aussi un moment important de rencontre entre deux génies féminins, parce qu'il s'agit bien d'une rencontre insolite entre Colette et Melanie Klein, tout ceci se passant, figurez-vous, autour d'une fantaisie lyrique qui n'est autre que le morceau de Ravel, « L'enfant et les sortilèges ». Je voudrais aussi ajouter que cette rencontre entre Colette et Ravel et Melanie Klein s'accompagne d'une autre à laquelle je suis très sensible, une rencontre avec Claire Gibault, une des rares femmes chefs d'orchestre qui a dirigé récemment L'enfant et les sortilèges. Donc, fantaisie lyrique, de quoi s'agit-il ? La fantaisie lyrique campe donc un petit garçon en pleine crise de paresse. Il ne veut pas faire ce devoir, il se montre rétif à l'écriture, vous ne vous y attendiez pas, mais Colette se décrit elle-même comme enfant rétif à l'écriture, on dira rétive pour elle, tout autant qu'à l'arithmétique. Donc le petit garçon de cette fable, de cette fantaisie lyrique, pourrait bien être elle-même. Ces réticences scolaires du petit garçon ne sont que le déplacement de quelque chose de plus profond qui intéresse le psychanalyste et toute mère de famille. Il s'agit d'une rage profonde qui se révèle être un désir secret pour la mère, précisément. C'est ce que laisse entendre finement Colette elle-même, qui, dans le rebondissement de l'intrigue, se fait psychanalyste d'enfant sans le savoir. Toutefois, on aura besoin des pesants concepts de Madame Melanie Klein pour apprécier la pertinence psychologique de Colette dans cette féerie musicale. Je vais vous le dire comment. Dans le texte d'abord. « J'ai envie de mettre maman en pénitence. Je n'aime personne. Je suis très méchant, 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 méchant », déclare le garçonnet. La redoutable sévérité de la mère semble bien justifier cette rage infantile. Mais cette image d'une mère indomptable n'est-elle pas une création du désir frustré lui-même ? Promettez-nous, bébé, de travailler, tranche maman en castrant son garçonnet de 6 ou 7 ans, traité ici de bébé, donc inadmissible. On comprend que l'enfant d'une telle mère ne peut être qu'en rage. Et elle lui inflige en plus une punition qui est une frustration orale, horreur pour Colette, en lui mettant au thé sans sucre et au pain sec. On n'imagine pas pénitence plus insupportable si vous admettez, comme moi, que c'est la gourmande Colette, minée chérie pour sa maman Sido, qui se dissimule donc derrière ce petit caractériel. Une très violente colère s'empare de l'enfant, agressivité spectaculaire, que Madame Melanie Klein, notre chère psychanalyste qui a inventé la psychanalyse des enfants, n'aura pas de mal à décrire. Elle décrit cela non pas dans les termes de Colette, fort léger et qui se prête à la musique de Ravel, elle décrira cette colère comme une angoisse destructrice, primordiale, et plus lourdement encore, comme une position schizoparanoïde. Meubles et ustensiles, animaux et arbres subissent à tour de rôle les attaques du jeune héros armé d'un couteau. Rien n'apaise le garçonnet dans ce combat contre la maison et le jardin, identifié, selon Melanie Klein et dans le fantasme de cet enfant, au corps de la mère, dans lequel corps cohabitent cependant quelques éléments du père, tels la régularité de l'horloge, symbole paternel, et le petit vieillard enseignant l'arithmétique, symbole lui bien plus évident que l'horloge, de la langue et de la loi paternelle. Si le jeune rebelle est un Édipe, qui se révolte donc contre le père, il est en effet à la manière de Melanie Klein. Et c'est pourquoi Melanie Klein s'est reconnue dans ce texte de Colette et dans le petit spectacle qui était présenté à Berlin, le petit spectacle de l'opéra de Ravel. Pourquoi ? Parce que c'est dans le corps de la femme, c'est donc à travers l'image féminine que se manifeste la loi du père. L'enfant prend pour cible de son désir envieux et de ses colères non pas le père en priorité, mais l'image maternelle, bien que cette image contient aussi des éléments paternels. Autrement dit, cet Édipe est déjà un petit Oreste, et vous vous souvenez qu'Oreste est celui qui tue sa mère et non pas le père. Et c'est une figure que Melanie Klein aime beaucoup, on comprend qu'elle saute les pieds joints, va-t-on dire, dans le texte et de Colette et dans la musique de Ravel. Au cours de cette crise, l'enfant craint de perdre sa tête. « Oh, ma tête !» crie le petit garçon. Et Melanie Klein diagnostique que la fixation à cette rage contre la mère, c'est-à-dire à la position schizoparanoïde selon le langage de la psychanalyste, tout cela va carencer gravement ni plus ni moins que la possibilité de penser du jeune garçon. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est la sensorialité des animaux qui va lui permettre de s'en sortir. Il va observer le coït de deux petits chats qui ne parlent pas, mais qui vont représenter pour lui le coït envié et redoutable des parents. Et à partir de là, il va cesser d'être enragé. Il va se sentir très solidaire de ses animaux. Il va se dire qu'il s'aime. Il l'oublie. Il est seul, peut-être, mais il aime aussi ses petits animaux. Et après l'observation donc de ce coït qu'il ne redoute plus, il va se tourner vers sa mère. Et au lieu d'être méchant et d'attaquer tout le monde à la place de la mère, il va s'adresser à elle, il va la nommer pour la première fois « maman ». Donc, Melanie Klein déchiffre un Édipe violent, d'une espèce archaïque et jalouse, mais elle reconnaît aussi à Colette une autre intuition, à savoir que l'écrivain a su repérer l'importance de ce que la fondatrice de la psychanalyse de l'enfant va appeler la position dépressive. Autre chose donc que la position schizoparanoïde, c'est-à-dire la possibilité de perdre maman et même de la réparer. L'enfant, selon la terminologie de Melanie Klein, va pouvoir se dégager de la mère, de sa jalousie, de son envie envers elle et ou du coït de la mère avec le père, que représentent les deux chats, et du coléreux qu'il était, va devenir quelqu'un qui va se représenter la mère, qui va pouvoir l'imaginer et même développer des capacités mentales pour la nommer, pour vivre avec elle et vivre aussi sa propre vie en entrant dans le cursus de l'école et après dans la suite de l'éducation, l'apprentissage des métiers, etc. Colette avait décrit Claudine comme un écureuil dans la retraite sentimentale. Ici, dans L'enfant et le sortilège, le petit garçon attaque un écureuil, mais c'est une manière de s'attaquer lui-même, et ensuite, il cesse d'attaquer aussi bien soi-même que sa mère et que l'écureuil, et il se met à réparer tout ce monde. Comme Melanie Klein, donc, Colette découvre que l'enfant a besoin de malmener l'écureuil, cet être fusionnel qui le handicape, fusion entre lui-même et la mère, pour s'engager ensuite dans la réparation et ou du pansement. Il se met à panser la patte de l'écureuil. C'est en accomplissant ce processus qu'il devient enfin capable d'autonomie et de culture. Lorsque l'agressivité se transforme en réparation, lorsque l'enfant armé d'un couteau devient un garçon qui panse, P-A-N-S-E, la patte de l'écureuil, il devient quelqu'un qui peut parler et qui peut aussi penser, P-E-N-S-E. Lorsqu'il peut dire « maman », il n'est plus en osmose jouissive et rageuse avec sa mère, en la nommant, il met la distance entre elle, entre ses désirs ambivalents, et soi-même. Sa nouvelle personnalité est désormais capable d'apaisement, de sagesse, d'apprentissage. Je cite, non pas Melanie Klein, mais Colette, simplement vous voyez que dans ce parcours, les deux génies féminins se croisent, se rencontrent, mais elles vont se dissocier, vous allez le voir. L'enfant crie. Et Colette précise, il a crié un mot, un seul mot, « maman ». Et ce sont les bêtes du jardin qui se félicitent de ce parcours. L'écrivain aussi, et la psychanalyste évidemment, vous vous en doutez.
Il s'aime, il m'oublie, je suis seule.
Ce parcours est merveilleusement éclairé par la perspicacité de Melanie Klein, qui a découvert ce texte de manière tout à fait inattendue. Le texte a été écrit en 8 jours, en 1915. Il a été retardé par la lenteur spécifique au travail du compositeur, car le livret de cette fantaisie lyrique en 2 parties ne fut mise en scène qu'en 25 à Monte-Carlo et en 26 à Paris. Eh bien, c'est seulement par un étrange hasard que Melanie Klein a lu un compte-rendu sur la présentation de cet opéra à Berlin et, sans avoir vu le spectacle ni pris connaissance du texte de Colette, elle expose devant la Société britannique de psychanalyse le 15 mai 1929, une analyse de cette œuvre sous le titre « Les situations d'angoisse chez l'enfant et leur reflet dans une œuvre d'art et dans l'élan créateur ». À ce moment-là, la mère n'était pas encore au centre de la thématique de Colette. L'enfant seul retenait son intérêt et nous avons vu la dernière fois comment la mère est devenue le centre de son intérêt après une longue expérience sexuelle de Colette elle-même. Néanmoins, les observations que Colette avait faites déjà sur elle-même, mais aussi sur sa fille Colette, dénommée Belle Gazou, lui ont permis de développer une vision d'écrivain, mais d'une étrange justesse psychologique qui ne pouvait que fasciner Melanie Klein. Donc, Melanie Klein va donner une compréhension d'une grande perspicacité qui lui appartient à elle-même et qui est éclairée par ses propres théories, et que le génie de Colette lui présente de manière tout à fait naïve et sans aucune prétention psychologique. Elle ne pense que présenter, elle, Colette, quelque chose de tout à fait léger et d'amusant. Mais en fait, ce que Melanie Klein découvre, c'est que sans le savoir, Colette a frayé les voies de la psychanalyse, parce qu'elle a montré un dépassement de la culpabilité propre à un Œdipe archaïque avec une mère toute puissante, et que Colette a montré comment on peut transformer les attitudes rageuses, tels les troubles maniaques ou les troubles de caractère, voire les psychoses infantiles, comment on peut les transformer par une réparation. Mais cette évolution bénéfique se produit si et seulement si une reconnaissance du désir édipien et de ses ambivalences a eu lieu. Pour Klein, cette reconnaissance prend l'aspect d'une expérience dépressive. Cela veut dire que je découvre que mon désir pour maman est désir de la tuer. Je découvre qu'Eros est Thanatos. Œdipe peut-être. L'être humain, l'enfant, pour Klein, sont davantage encore un Oreste, mais de le savoir nous rend libres. J'accepte de perdre maman. Mon chagrin signifie que j'assume de renoncer à mon désir pour elle. Et ce renoncement qui évoque et qui équivaut à une mort, ce renoncement est la voie royale de mon autonomie, c'est-à-dire de ma capacité de penser, de créer et de vivre. En d'autres termes, l'enfant s'imagine que sa cruauté l'a conduit à tuer maman. Lorsque l'enfant voit que maman s'absente, il imagine qu'il l'a tuée. Il se trouve malheureux. C'est le chagrin qui se peint sur son visage. Les psychanalystes de la petite enfance reconnaissent dans ce chagrin sur le visage de l'enfant le début de la position dépressive. Mais cette position dépressive augure aussi de la capacité de se représenter maman. L'enfant se dit, selon Melanie Klein et les Kleiniens, l'enfant se dit « j'ai tué maman, j'en suis triste, mais non, je peux la récupérer en l'imaginant. Je peux même faire plus, je vais la nommer. » Et à ce moment-là, les écolalies, les areux, les ee, le, et tout ce que vous pouvez imaginer comme écolalie infantile, se transforment en signes linguistiques. Je nomme l'objet que j'ai perdu. Donc vous voyez que dans la conception de Melanie Klein, la tristesse est l'intervalle qui sépare l'agressivité de l'intellect. Il faut pouvoir perdre, il faut passer par une certaine forme de dépression pour être intelligent. L'intelligence est une construction, un sparadrap sur le volcan de l'agressivité et de la dépression. C'est la théorie kleinienne. Et Klein croit trouver ça en Colette. Je pense, quant à moi, que Colette a vite glissé sur la mélancolie et sur la tristesse et que, bien que son intuition la conduit à proximité de Klein, sa voix à elle, colettienne, est tout autre. Car, en effet, notre écrivaine, comme dit aujourd'hui, est loin d'insister aussi fortement que Klein sur cette dépressivité et sur la réparation qu'elle entraîne. Colette, elle suggère en effet que l'enfant se rend compte de la perte de sa mère. Il y a le mot « sans mère » dans la bouche de l'enfant. « Sans mère !» se dit le petit garçon, et il s'étonne, il se désole de cette séparation. Il se lamente en regardant les petits de la chauve-souris aussi qu'il a tués. « Je suis seul !» dit-il encore en s'épitoyant sur lui-même, mais sans plus. Ailleurs, toujours à propos de l'enfant et les sortilèges, Colette évoque une émotion qui lui serre la gorge. Mais c'est l'admiration qu'elle éprouve pour la musique de Ravel qui la bouleverse. « N'est-ce pas, c'est amusant ?» disait Ravel. Cependant, un nœud de larmes me serrait la gorge. Les bêtes, avec un chuchotement pressé, syllabaient à peine, se penchaient sur l'enfant réconcilié. Je n'avais pas prévu qu'une vague orchestrale constellé de rossignols et de lucioles, se lèverait si haut mon œuvre modeste. En fait, vous voyez, Colette a des larmes dans la gorge, mais elle passe très vite. Dans un autre texte, Colette est même plus nette. « Mon père et moi, nous ne supportons pas la pitié. Notre carrure la refuse. Jamais de pitié, pas de larmes chez Colette. De fait, elle ne pleure presque jamais. » Dans tous ses écrits, elle a fait le choix de ne pas souligner le mal-être, les défaillances, les chagrins. Ce n'est donc pas à la manière de Melanie Klein, en creusant la position dépressive, que Colette va rencontrer la mère et va passer de la colère au langage, au sublime. Dans L'enfant et les sortilèges, sa lucidité autoanalytique la conduit à une méditation lyrique très pénétrante sur la relation mère-enfant, mais uniquement du côté de l'enfant. On assiste à la levée de la culpabilité due au désir incestueux, à l'émergence de l'image bénéfique d'une mère non plus castratrice ou terrifiante, mais appelée in fine avec gratitude et affection, tout simplement maman. Il manque cependant à ce dispositif d'être abordé du côté de la mère, de mettre en mots le souvenir de cette sensualité sans parole qu'incarne le couple des chats, ce couple qui a permis à l'enfant de se débarrasser de son envie et dont la découverte se révèle décisive pour que le fils puisse transformer son agressivité en appel à maman. D'ailleurs, le lecteur ne peut manquer d'être frappé par l'extrême condensation de ce texte, aux limites du schématisme et de la sécheresse, malgré les concessions obligées à la langue infantile. Non que Colette ignore la magie du style sensuel, nous l'avons vu y exceller dans Les Vrilles de la Vigne par exemple, mais il lui restait à traverser la crise de l'individuation en s'appropriant non plus la perte, dépression, privation, telle que les vit l'enfant, mais au contraire, la sensualité incestueuse elle-même, et ceci du côté de la mère. Ça, elle va le faire, mais nous l'avons déjà vu, en passant par ce que j'appelais l'expérience perverse, c'est-à-dire l'homosexualité et l'amour incestuel. Cependant, si je m'arrête à ce stade antérieur de son expérience, c'est pour marquer comment, lorsqu'elle s'occupe de la toute petite enfance, son chemin diverge avec celui de Melanie Klein. En faisant l'économie de la dépressivité de l'enfant, comme de la dépressivité de la mère, c'est vers le désir incestueux de la mère que l'écrivain va se diriger. En fait, Colette fait moins que Melanie du côté de la dépression, mais elle fait beaucoup plus qu'elle du côté de la perversion. Quand je perds maman, je la tue, mais je la retrouve en pensée, dit en substance la psychanalyste Melanie Klein. Et cette pensée, La pensée avec le grand P, notre intelligence qui nous conduit à gagner des concours, être excellent dans la globalisation, par exemple. Cette pensée est ma nouvelle vie, une vie psychique, une créativité de connaissance, de savoir. Eh bien, la voix de Colette est tout autre. « Je sais bien que je perds maman, dit-elle, mais je ne suis pas pressée de quitter maman. Je veux éprouver à fond le plaisir de fusion-destruction qui nous lie. Je veux sentir ses charmes et ses brûlures. Et si je dois m'en détacher un jour pour finir, ce ne sera jamais qu'en saturant de saveurs, de parfums et de sons ce souvenir qui nous contient et qui passe par notre langage commun, devenu ainsi seulement une parole sensible. Ce n'est pas une pensée qui résulte de ce parcours, qui est en fait une relation qui perdure tout au long de la vie de Colette, du texte de Colette, une fusion qui perdure tout au long de cette expérience avec le maternel. Ce ne sera pas une pensée, Colette n'est pas une intellectuelle, je l'ai déjà dit, mais ce que j'écrirai comme une A-pensée, un A privatif, un détachement de la pensée, une immersion dans la sensorialité de la langue, là où la langue n'est pas seulement sens, mais sensation. Elle n'est pas vraiment une connaissance, on l'appellera une sublimation. Elle comprend des souvenirs sensuels du corps de la mère, de notre maison, un espace commun, fluide, géranium et chat, je l'appelle Sido. Il s'agira donc d'inverser la dépression occasionnée par la perte de la mère en appropriation incestuelle ou incestueuse et en ce sens en appropriation perverse de l'objet maternel. Tout écrivain, tout poète s'approprie la mère. « Moi seul, je me nourris de la mère », disait le sage taoïste. « Colette, une vieille chine », disait Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas si elle imaginait, en disant cela, qu'elle faisait un diagnostic du lien incestuel de Colette avec l'objet maternel. À cette condition seulement, l'exploration de Colette n'aboutit pas purement et simplement à une indépendance de la pensée et du soi, qui se dissocie du corps et qui installe le sujet dans l'abstraction, comme il nous arrive à nous qui pensons, qui expliquons, qui essayons d'être performants et intelligents. Au contraire, l'assimilation de la mère et de son désir, cette manière de se nourrir de la mère, comporte en elle-même un plus de jouir, à la fois scandale pour les normes de la morale sociale, mais aussi amplification exorbitante, monstrueuse, des capacités sensorielles et pulsionnelles du moi qui contaminent le lecteur. Ni dépression, ni perversion, mais une merversion, c'est le secret de la sublimation selon Colette.
C'était De l'écriture au féminin par Julia Kristeva. Prise de son Jean-Michel Coqui. Mixage Cécile Dume, Olivier Dupré. Réalisation Marie-Ange Garandeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 août 2003. Demain, à la même heure, cinquième et dernier épisode de la série.